Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Tout autre chose, puisqu'on va parler de l'exposition Couple moderne qui est organisée au Centre Pompidou, Metz, en votre compagnie, Emma Lavigne. Vous êtes historienne de l'art, vous dirigez le Centre Pompidou, Metz, et vous êtes également co-commissaire de cette exposition. Une exposition qui nous permet de découvrir de merveilleuses images de Man Ray, également découvrir l'alliance de Dora Maar et de Picasso. Dora Maar, dont on va entendre la voix, c'est l'extrait d'une grande traversée et qui a été diffusée sur France Culture le 27 juillet dernier.
Dora Maar, je voudrais vous demander alors maintenant si vous vous êtes heurté, vous, à des difficultés particulières relatives au fait que vous êtes une femme, difficultés que n'aurait peut-être pas éprouvé un homme artiste.
Non, pas du tout. Je me suis heurté à une difficulté que je vois se reproduire continuellement pour les hommes comme pour les femmes. Quand le jeune homme ou la jeune fille dit « je voudrais être peintre », la famille dit « ah, c'est très bien, mais tu sais, c'est très difficile, tu ferais bien de faire d'abord une école, par exemple une école d'art décoratif ». Et ça, je le vois continuellement. Pour que ça serve à quelque chose. Et là, on perd son temps pendant 4 ou 5 ans, au lieu de commencer tout de suite à travailler, car l'art décoratif est une chose tout à fait différente. L'art décoratif, art appliqué, je ne sais quoi de ce genre.
Alors vous considérez...
Et ça, je le vois tout le temps.
Et vous considérez-vous que vous avez perdu une partie de votre temps de cette façon?
Une grande partie.
Un commentaire, Emma Lavigne.
Ben, c'est déjà tout à fait extraordinaire de l'entendre. Je ne sais pas de quand date cette interview, mais on peut dire que dans ce couple qu'elle a formé avec Picasso, il y a eu une sorte de mise à mort du talent même de Dora Maar. Donc, il y a eu une période d'intense créativité partagée, mais ensuite, Picasso va lui conseiller, alors qu'elle est une immense photographe de la mouvance du surréalisme, d'abandonner la photographie. Il lui conseille de devenir peintre et Dora Maar, qui avait un talent inouï, devient une sorte de mauvaise peintre copiste de Picasso jusqu'à ce qu'elle ne tombe dans le mutisme et que finalement cette femme qui était aussi une activiste politique et une poète vive complètement recluse dans la maison que lui offre Picasso. La rupture avec Picasso l'a fait énormément souffrir, elle va même suivre une analyse avec Lacan. Et on a l'exemple d'une femme qui est vraiment une sorte de conscience historique. Elle a certainement eu un impact sur la prise de conscience de la guerre d'Espagne aussi auprès de Picasso. On connaît son rôle crucial dans Guernica.
Avec une forme de préscience, pardonnez-moi,
pardon,
je vous ai coupé, Emma Lavigne, parce que là aussi, Dora Maar, si on veut la replacer dans la scène intellectuelle de l'époque, elle était proche de Georges Bataille, elle était proche également de Paul Éluard. Georges Bataille, c'est important parce que très tôt, elle va avoir une conscience de gauche anti-stalinienne. Et donc, elle va voir que la guerre d'Espagne ne se déroule peut-être pas exactement comme le raconte le Parti communiste à l'époque.
Oui, elle est en effet très engagée politiquement. Elle a été la compagne de Georges Bataille. Elle se réunit avec toute cette mouvance d'extrême gauche dans l'atelier des Grands Augustins qui va devenir l'atelier au sein duquel Picasso va peindre Guernica. Et on sait combien son œil photographique va permettre à la composition de Picasso également d'évoluer, de se transformer. Donc elle a un véritable rôle dans la façon que Picasso va avoir de composer ce chef-d'œuvre. Et elle est aussi une immense artiste elle-même. La photographie surréaliste qu'elle pratique emmène vraiment dans un univers aux confins de l'imaginaire, de la poésie. On est dans un univers hanté aussi par la pulsation du temps dans des photos parfois avec qui ont une forme de violence. Donc une femme qui a énormément de choses à exprimer. Et donc cet apprentissage dont elle parle au début de l'interview, elle va le poursuivre avec Picasso jusqu'au mutisme.
Et alors, si on prend ce fil, parce qu'il y a un fil de vie que tisse Dora Maar, alors il va donc vers des philosophes comme Georges Bataille, un poète, Paul Éluard, et il y a aussi un éditeur, Christian Zervos, qui a eu un rôle extrêmement important. Il a eu un rôle important aussi pour des poètes, je pense à Char. Il n'y aurait probablement pas eu ces publications de Char si Christian Zervos, et la femme d'ailleurs de Christian Zervos, il me semble Yvonne Zervos, avait eu également évidemment une présence extrêmement importante. On voit donc à quel point Dora Maar a été importante et décisive dans la vie de Picasso. Et finalement, l'histoire a été très ingrate pour elle.
L'histoire a été très ingrate et il y a ce passage de cette femme qui se fait l'écho des turbulences du temps et en même temps qui prend position par rapport à ce temps. Je pense que dans cette histoire qu'elle partage avec Picasso pendant quelques années, la guerre civile espagnole est évidemment cruciale vu que Picasso est assigné à résidence, comme on le sait, à Paris, dans l'atelier des Grands Augustins. Il est éloigné de la guerre d'Espagne et puis ensuite de l'Espagne par le régime franquiste. Et donc, elle qui a représenté l'ouverture, qui a reconnecté aussi Picasso d'un moment où il était assez isolé auprès des grandes figures que vous citiez, elle devient cette femme qui pleure, une sorte de madone, la mère à l'enfant de la guerre civile espagnole. Et puis, progressivement, elle devient de 37 à 45 l'unique sujet de Picasso qui va la peindre sous toutes les coutures, si je puis dire, et l'enfermer complètement dans une image qui fait que sa propre créativité se tarit.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous lorsque... Alors, il y a des portraits extrêmement célèbres, notamment un portrait de femme de Picasso en 1938. Et il y a également toute cette série de portraits de Dora Maar qui ont été photographiés à l'espace des Grands Augustins, dans l'atelier de Picasso, à la fin donc des années 30. Le fait qu'un peintre se concentre sur une femme qu'il aime, qu'est-ce qu'il y a donc sur le plan artistique, sur le plan de l'histoire de l'art à retenir de cela, Emma Lavigne ?
Alors il y a un jeu, un dialogue qui peut devenir dans certains cas soit une partie d'échec. Hein. Duchamp par exemple disait que c'était vraiment ce mouvement de pièces se mangeant l'une l'autre. Donc ces pièces qui se mangent l'une l'autre, c'est des individus. Et dans le cas de Picasso et de Dora Maar, on peut même parler d'une sorte de mise à mort symbolique, d'une tauromachie comme Picasso aimait les représenter. Il y a chez Picasso cette idée que Dora Maar peut aussi, par sa pratique photographique, venir enrichir aussi sa propre recherche, vu qu'il réalise des photographies lui-même. Et on voit dans l'exposition qu'à un moment, il va même prendre les plaques photographiques de Dora Maar pour peindre sur ces plaques photographiques. Donc, il y a cette idée d'inventer des chimères, de renouveler la forme. On est toujours dans un processus créatif extrêmement vibrant et foisonnant chez Picasso. Et donc, Dora Maar, avec son univers, est une façon pour l'artiste d'enrichir son univers, de créer des formes plus chimériques. Ensuite, il y a une espèce de force dans le couple d'artistes qui, à part certaines exceptions, l'individualité a besoin de reprendre ses pleins pouvoirs, ce qui mène à parfois des zones de conflit.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il l'a tué symboliquement, puisque c'était une bonne photographe, elle faisait des photographies très inspirées du surréalisme, et puis après Picasso, une photographie plus quoi.
Ah oui, il y a une mise à mort, c'est le combat tauromachique qui vient symboliquement tuer Dora Maar comme artiste, comme poète et comme activiste politique. Il y a vraiment deux périodes dans sa vie et la rencontre avec Picasso, même si elle est très riche dans les premières années, fait basculer la vie de Dora Maar dans quelque chose qui est tragique.
Et lorsqu'elle ne crée plus, il la quitte.
Voilà, il la quitte. C'est lui qui l'encourage à abandonner la photographie pour se mettre à peindre. Donc il y a quelque chose de très violent de demander à sa compagne d'abandonner son médium de prédilection. Et en effet, elle va vivre complètement recluse donc jusqu'à la fin de sa vie.
Pourquoi a-t-elle inspiré tant d'hommes ? Parce que il y a aussi des photographies très célèbres de Man Ray où elle est mise en scène. C'est également le rôle qu'elle va avoir auprès de Picasso. C'est un rôle injuste parce que ça n'était pas seulement un modèle, mais c'est malheureusement le rôle que l'histoire de l'art retient d'elle d'abord aujourd'hui, Emma Lavigne.
Alors, c'est vrai que comme souvent chez ces femmes artistes ou chez ces muses des grandes figures du surréalisme, on peut aussi évoquer Neusch ou Jacqueline Lambat, qui était aussi une grande artiste.
Neusch Éluard.
Voilà, Neusch Éluard et puis Jacqueline Lambat qui va être la muse de Breton pour évidemment L'amour fou. Il y a cette idée d'une beauté subversive, hein, d'une femme qui vient incarner la beauté. Et on a d'ailleurs dans les mémoires de Man Ray, il raconte qu'il avait fait la connaissance de Dora Maar, une belle fille photographe accomplie, et il dit dans certains de ses travaux elle faisait preuve de beaucoup d'originalité dans un esprit surréaliste. Donc on est toujours dans cette idée que la femme dans le surréalisme est celle qui vient ouvrir les portes de l'inconscient, que la femme est comme un être médiumnique qui permet de pousser l'artiste dans des voies encore inexplorées. Donc, je pense que Dora Maar, par sa beauté, par son talent et puis par cet imaginaire, est une femme qui séduit tous ces artistes et intellectuels de l'époque.
Autre voix féminine de muse, mais plus que ça, on va entendre Elsa Triolet. Elle réagit au fait que tant de poèmes d'Aragon lui sont dédiés.
Quand on est jeune, c'est une chose tellement normal qu'on vous dédie des vers. Mais vous savez qu'aujourd'hui, je ne voulais même pas venir, parce que j'aime mieux que les lecteurs, les spectateurs illustrent les poèmes d'Aragon par une Elsa de leur imagination. Et certainement, et presque toujours, je pense même toujours jeune. Mais tout mon orgueil, tout mon bonheur, c'est justement que je ne suis plus jeune, que j'ai les cheveux blancs. Et je me suis dit que peut-être on ne m'en voudra pas de ne plus avoir 20 ans et que ça sera même une consolation pour bien des femmes de voir qu'on peut être pas jeune du tout et avoir vécu avec un homme depuis 30 ans et quand même avoir un poème qui porte mon nom.
Beaucoup de poèmes, en réalité, portent le nom d'Elsa. Un couple différent de celui de Dora Maar avec Picasso, puisqu'on a vu en votre compagnie, Emma Lavigne, à quel point Picasso avait tué symboliquement Dora Maar, avait tué sa créativité. Elsa Triolet a souvent été jugée par les biographes d'Aragon comme étant une femme qui sadisait Aragon, qui l'a sadisé sur le plan politique. On lui attribue à tort ou à raison l'engagement stalinien d'Aragon. On considère également qu'elle s'est occupée toute sa vie de procurer souffrance et misère à cet homme qui partageait son existence.
Le rôle, en effet, donc d'Elsa, c'est une muse, c'est quelqu'un qui est engagé aussi dans la marche de l'histoire. Il ne faut pas oublier ses origines russes. Et on connaît aussi sa sœur, Lili Brik, qui a été également la muse d'un grand poète, Mayakovsky. Donc, elle souhaite aussi rester dans le cours de l'histoire. Et donc, c'est intéressant de voir ces figures de muses ou de poètes ou d'artistes russes, justement, qui ont cette conscience que l'art partagé au sein du couple doit aussi être au plus près de la vie intime, mais aussi du temps présent. Donc il y a évidemment des erreurs de l'histoire, et c'est intéressant combien il y a en effet quelque chose, vous parliez du mot de sadisme, mais derrière ces sublimes poèmes d'amour qui lui sont dédiés, il y a aussi une relation bien plus complexe et tumultueuse qui le relie.
Oui, enfin, il y a effectivement une relation complexe, mais toutes les relations amoureuses sont des relations complexes et malavignes. Et il y a juste le fait que Aragon a écrit des pages sublimes sur Elsa, et on se rend compte, ses biographes insistent là-dessus, sur le fait qu'elle ne lui a pas procuré bien-être, sérénité et confort. Bien au contraire, c'est donc ce contraste-là, en fait, qui est étonnant et qui diffère de ce que l'on évoquait avec Picasso, Dora Maar.
Oui, tout à fait. Nous, dans l'exposition, parce que autour de certaines grandes figures, on pourrait mentionner plusieurs couples, et autour de Louis Aragon, on on a aussi voulu présenter le couple qu'il forme avec Nancy Cunard, donc avec laquelle il va fonder donc une maison d'édition très importante qui va publier notamment pour la première fois, par exemple, Samuel Beckett. Et cette relation amoureuse et engagée dans l'édition avec Nancy Cunard va ensuite laisser la place à une autre histoire d'amour très forte qui montre aussi combien la France, sans idéaliser du tout la situation, a été un modèle à ce moment pour Henri Kroeder, qui est un musicien de jazz noir. Il va trouver en France une terre d'accueil qu'il n'a pas aux États-Unis, et Nancy Cunard va continuer à travailler avec Henri Kroeder dans cette maison d'édition et publier au grand dam de sa mère, grande aristocrate anglaise, qui lui dit « Mais ma fille, who knows a negro ?» Qui connaît un nègre à part toi? C'était vraiment quelque chose considéré comme scandaleux, un couple mixte dans cette France donc des années 30. Et vous savez certainement qu'avec Kroeder, elle va être initiée à toute la culture afro-américaine, et elle va publier la même où elle a travaillé avec Aragon, la Negro Anthologie. Donc ça a été encore une histoire d'amour et de création, donc très symptomatique.
Effectivement, avec un rôle très important dans la découverte de cette littérature-là, la Harlem Renaissance, un couple qui diffère des couples tels que des couples polyamoureux, tels que des couples tumultueux, un couple véritablement traditionnel, Charles et Ray Eames. Là, il s'agit de deux designers, et vous les mettez en scène dans cette exposition, Emma Lavigne.
Alors, c'est un couple. Ray était peintre, elle a une formation de peintre avec un sens de la couleur tout à fait exceptionnel. Elle était d'ailleurs l'amie de Lee Krasner, encore une autre histoire de couple avec Pollock, même s'ils ne sont pas présentés dans l'exposition. Et les Eames sont exposés à travers la magnifique façade comme une extension d'un tableau de Mondrian, de la Case Studies numéro 8, qui était la maison programmatique qu'ils avaient donc construit à quatre mains, comme un jeu de cartes, donc que l'on peut visiter à Los Angeles. C'est une maison qui vient, alors c'est très orchestré, c'est-à-dire que leur couple devient une image, ils sont excellents pour se mettre en scène, pour vendre leurs produits, donc la célèbre patère avec des boules de couleurs, ces chaises notamment en coque moulée, mais ils ont aussi réalisé de nombreux films tous les deux, donc c'est une grande entreprise, on peut dire presque une entreprise commerciale, et la maison devient quelque chose qui est un espace extensible. Il n'y a plus de pièces. Le salon peut être modulé en fonction de moments de travail, de moments de fête, de moments de repos. Donc, le mobilier qu'ils vont inventer est un mobilier extrêmement flexible, déplaçable. On connaît le fameux fauteuil à bascule. Et ils se mettent en scène pour incarner cette nouvelle art de vivre, cette nouvelle façon d'habiter et de partager leur espace. Donc, comme d'autres couples de designers et d'architectes dans l'exposition, on voit combien ces couples ont envie de faire de cet espace partagé le lieu de tous les possibles.
Vous parlez de mise en scène. Il y a beaucoup de mise en scène de couples. Il y a par exemple Paul et Nouche Éluard qui se mettent en scène devant l'objectif de Man Ray. Picasso se mettait en scène. Bref, c'est un exercice classique chez ces artistes, Emma Lavigne.
Man Ray s'est en effet fait l'écho de tous ces couples d'artistes. On pourrait presque raconter l'exposition à travers ces photos. Mais il y a aussi des couples clandestins. Donc ces couples clandestins, je peux vous dire que c'est particulièrement difficile de trouver des photos. Et on peut citer par exemple Maria Martins et Marcel Duchamp. Donc Maria Martins, grande sculptrice brésilienne, femme de l'ambassadeur du Brésil aux États-Unis. Et évidemment, cette passion qui a duré de nombreuses années et qui a inspiré à l'inventeur du ready-made la dernière œuvre de sa vie, étant donné moulée sur le corps de la belle Maria Martins, évidemment restée extrêmement confidentiel. Donc il y a toutes sortes de récits mis en scène, ou parfois des passions secrètes.
Passions secrètes ou bien des passions public, des passions qui sont présentées dans cette exposition au Centre Pompidou-Metz. Peut-être pour continuer à prolonger cette discussion sur à la fois les expositions que vous faites, Emma Lavigne, et sur la politique culturelle, à une époque où on parle beaucoup de décentraliser la culture, d'apporter à la fois les œuvres à un public varié, nous raconter en forme de bilan d'étape là où en est le Centre Pompidou-Metz aujourd'hui, quelques années après son ouverture.
Alors le Centre Pompidou-Metz, c'est en effet un exemple de décentralisation culturelle. Nous avons passé le cap des 8 ans, donc là on rentre dans l'âge de raison, même si on a envie de continuer à imaginer des expositions qui nous emmènent très très loin et certainement pas redevenir une institution bien établie. Mais on peut dire que le succès de l'établissement...
considérable, c'est-à-dire dépasse largement... Les prévisions en termes donc, de nombre
de visiteurs. Les prévisions
étaient
à peu près de 250 000 visiteurs. Nous avons eu l'année dernière 350 000 visiteurs avec une programmation donc, où les expositions thématiques sont quand même très importantes. Ce qui est passionnant, c'est de dialoguer avec le territoire. Donc, on parlait de couple moderne. Il y a un couple qui n'est pas dans l'expo parce que ça ne correspond pas à la période chronologique que nous avons abordée, mais qui est bien là comme un déclencheur. C'est évidemment Verlaine et Rimbaud. Verlaine, dont la maison natale est à Metz, et Rimbaud à Charleville-Mézières. Donc, on essaye toujours de dialoguer avec un territoire, de faire des choses qui ont du sens pour le territoire. Et c'est passionnant de voir que 69% de nos visiteurs, par exemple, viennent du territoire. Donc, on est dans quelque chose de prendre racine au sein de cette région Grand Est.
Emma Lavigne, vous restez avec nous. On va continuer à évoquer la culture. Je rappelle donc, Couple moderne, c'est cette exposition donc au Centre Pompidou-Metz, une exposition dont France Culture est partenaire, une exposition que l'on peut voir
jusqu'au 20 août.